Donc on va prendre le livre de Job au chapitre 42. Voilà, bon, on est déjà dans le sujet depuis le début, même dans la présidence, on parlait de ça, mais si on devait associer Job avec un mot, est-ce qu'on dirait, voilà, souffrance, épreuve, on associe le livre de Job, l'enseignement de l'épreuve, voilà, l'épreuve, c'est le mot, on traverse des épreuves, ben, c'est vrai que la vie, le livre de Job, tous les deux, incarnent l'idée de l'épreuve. Reconnaissons que dans l'épreuve, il y a « Oh là là, j'arrive pas à me garer aujourd'hui. Quelle épreuve ? Oh là là, il y a des embouteillages. Oh là là, c'est difficile. Et puis, oh là là, j'ai un rhume qui m'empêche de bien dormir. Quelle épreuve ?» Et puis, il y a le livre de Job. Et là, on est dans une autre dimension. Donc, ça relativise certaines de nos épreuves. Quand on lit le livre de Job, et c'est bien, c'est le livre de l'épreuve ultime. Reconnaissons que Job va être touché dans tout ce qu'il a de plus précieux, tout. Voilà, c'est l'épreuve ultime. Hier, je suis tombé, ça, malheureusement, des fois je perds un peu de temps avec YouTube et les trucs qui arrivent là. Alors, des fois ça commence par des choses, des messages, des chants chrétiens et tout ça, et puis de fil en aiguille, je regarde les buts qu'on a pris. Enfin bon, mais hier je suis tombé, et c'est arrivé comme ça, sur un prédicateur. Alors j'étais un peu surpris, parce qu'il avait d'énormes difficultés à s'exprimer. On voyait bien qu'il avait une maladie manifestement cérébrale ou orpheline, enfin qu'il faisait, qu'il parlait, et ses gestes, il était carrément handicapé, très handicapé, cérébralement et physiquement. Et je l'ai écouté, et il était prédicateur. Et il expliquait son témoignage que Dieu lui avait dit de prêcher. Il disait, mais regarde, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de prêcher? J'arrive même pas à parler, j'ai le cerveau. Et le Seigneur lui dit, parle, parle, parle. Et c'est vrai que de l'écouter, ben, avec tous ses gestes gênés, enfin, sa manière de parler, ben, il y avait une puissance dans cette prédication handicap, on va dire. Et justement, c'était pas un long message. Hein. Enfin, il expliquait ce que je viens de vous dire. Et puis, il terminait en disant, voilà, vous aussi, vous avez vos épreuves et Dieu vous demande de faire quelque chose et vous dites, mais Seigneur, regarde ce que je suis. Alors, j'aimerais que vous me regardiez. Si Dieu m'a rendu capable de prêcher, qu'est-ce que vous pourrez dire, vous, pour dire à Dieu, non, je ne peux pas faire ça. Et c'est vrai que de le voir et de l'entendre, il incarne, quand il prêche, l'idée de « ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse ». Il incarne, et je ne pourrai plus jamais, après l'avoir vu et entendu, dire « mais moi, ma bouche est embarrassée, je ne suis pas… » Quelles que soient nos incapacités, nos faiblesses, nos infirmités, dont parle l'apôtre Paul, eh bien, Dieu dit, je rends capable. Donc, tout ça pour dire, Job incarne l'épreuve, mais il incarne aussi la sortie de l'épreuve, et pour nous aussi, quelles que soient nos épreuves, quand on a Job comme répondant, on peut pas dire, oui, mais toi, tu peux pas comprendre mon épreuve. Et on peut le dire à plein de gens autour de nous. On vit pas les mêmes choses. On n'est pas passé et on passe pas par les mêmes choses. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à Job? Qu'est-ce qu'on peut répondre au Seigneur Jésus par rapport à l'idée de la souffrance quand on étudie ses souffrances? Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie de l'épreuve avec ce chapitre 42. C'est bien de voir la conclusion, de voir qu'est-ce que Dieu va tirer? Parce que ça nous aide quand même à supporter. Même Jésus a dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert ce qu'il a souffert. Et de savoir pourquoi on fait quelque chose et quelle peut être la conclusion ou la bénédiction, ça nous aide. Regardez les gens qui sont prêts à courir 42 kilomètres. Et qui, après, en parlent et disent, mais pendant 30 kilomètres, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'en ai des amis comme ça. Mais pourquoi je fais ça? Je ne le ferai plus jamais. Et ils le refont. Donc il faut croire qu'il y a quelque chose qui nous permet de traverser certaines choses, parce qu'on sait ce qu'il y a après. On sait ce qu'il y a au bout. Alors, le sortir de l'épreuve, c'est un peu cette idée. Il y a des exemples dans la Bible où des hommes sont, enfin, des serviteurs sont préservés au sein de l'épreuve. Quand on prend Shadrach, Meshach et Abednego, dans le feu, ils sortent. Ils sentent même pas le feu. Donc, au sein de l'épreuve, on aime bien ce genre de promesse du Seigneur. Oui, je t'envoie dans la fournaise, mais tu sentiras rien, tout ira bien. La vie de Job ne dit pas ça. Job a souffert. Job a traversé des choses terribles qui l'ont atteinte physiquement, émotionnellement, psychologiquement, au plus profond de lui-même. Donc l'exemple de Job est intéressant pour les gens. On aime bien de dire, oh, Dieu, envoie-moi où tu veux, mais parce que je sais que tu es avec moi. Mais tu es avec moi, ça veut dire quoi? Tout ira bien, tout sera aplani. Le vent soufflera juste derrière toi, pas pour t'empêcher, et puis tu auras pas mal, même si tu passes par l'épreuve de la maladie, ça fera pas mal. Ben non, ça fait mal. Et l'exemple de Job est intéressant parce que c'est vraiment au sein de l'épreuve, atteint au plus profond de lui-même, qu'il va y avoir une fin à tout ça. Et ça peut être encourageant, je crois, ça peut renouveler notre espérance de savoir ce que Dieu peut tirer en notre faveur et pour sa gloire de l'épreuve. Voilà, donc je ne vais pas lire tout le chapitre, parce qu'on va le lire petit à petit en trois temps. Après l'épreuve, Job va, comme c'est chronologique là, dans ce texte-là, ces trois temps, ce n'est pas obligatoirement dans cet ordre dans nos vies, mais il y a un temps d'instruction, il y a un temps de rétablissement, et il y a un temps de bénédiction. Les trois sont là. Alors, avec Job, on va les voir chronologiquement. Maintenant, je vais prier et puis on va commencer la lecture. Et je vais essayer de ne pas faire un message trop long parce que j'ai cette petite tendance, grosse tendance. Donc, je vais prier d'abord. Seigneur, nous te remercions de ce que tu peux parler de la souffrance parce que toi, tu l'as connue à la croix. Entouré de gens qui se moquaient, entouré de gens qui t'ont abandonné, souffrant dans ton corps, souffrant dans ton âme, abandonné même de ton Père, de celui qui t'était le plus précieux. Seigneur, nous savons que tu peux nous en parler en connaissance de cause et nous te remercions parce que tu n'as pas fait souffrir inutilement Job et nous aimons avoir la conclusion que tu as donnée à cette histoire, à ce qui s'est passé pour cet homme. Et de savoir que peut-être tu nous donneras un encouragement dans nos propres épreuves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. J'ai entendu dans une prière ce qu'on va lire maintenant, tout à l'heure. Un temps d'instruction, ce que Dieu va tirer au sortir de l'épreuve, de ce temps d'épreuve, eh bien, c'est déjà un enseignement. Il va nous instruire. Et c'est littéralement le mot que Dieu emploie. Au verset 4, quand il dit « Écoute donc, je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Alors c'est de, comment dire, je pense que là, pour une fois, Dieu est un peu ironique quand il demande à Job de l'instruire. C'est bien Dieu qui va nous instruire et qui a instruit Job. Mais dans cette discussion, dans cet échange, Dieu parle d'instruction. Ben oui, Job, dans cette épreuve, va apprendre quelque chose de fondamental. Verset 1 au verset 3, Job répondit à l'Éternel et dit « Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. Qui obscurcit mes plans sans science ? J'ai parlé, je ne comprenais pas. Ce sont des choses trop merveilleuses pour moi et je ne les connais point. Écoute donc et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc du verset 1 au verset 3, on voit que Job a enfin, pas seulement intellectuellement reconnu, oui tu peux tout, oui on sait que tu peux tout. Dans sa vie, maintenant il sait. Étant passé au sein de l'épreuve, étant sorti de l'épreuve, il sait maintenant, intimement. Et c'est la différence entre une connaissance expérimentale et intime de quelque chose est notre théologie, c'est que quand, par exemple, pour revenir à la voiture, vous n'arrivez pas à trouver une place, ça ne vous inquiète pas parce que vous dites « Je sais que Dieu peut tout. Je le sais. Je lui demande. » Et j'entends sans arrêt justement des frères et des sœurs dire « Oui, mais oh, dans mes épreuves, je n'ai pas le réflexe de venir au Seigneur. Quel dommage. J'ai encore quelqu'un que, dans mon entourage là, que j'ai rencontré hier faire des courses. » Et la première chose qu'il m'a dit, c'est ça. « Je connais le Seigneur, j'aime le Seigneur, mais chaque fois qu'il y a un petit problème, j'ai pas l'habitude de venir à lui. » Mais pourquoi ? Ça, c'est parce qu'on a une connaissance théologique de quelque chose. Mais quand on sait que Dieu peut tout, qu'est-ce qu'on fait ? À chaque fois qu'on est face à une impossibilité, on vient à lui. Moi, c'est pas compliqué. Allez, un autre exemple, mais une épouse qui n'arrive pas à ouvrir un pot, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, il y en a qui ont des outils, une boîte à outils, elles vont, bon, mais peut-être qu'elle va venir vers son mari, tiens, ouvre-moi le pot s'il te plaît, et le mari ouvre le pot. Bon, normal, ça c'est la scène idéale, c'est pas toujours le cas. Hein. Mais, juste pour dire, quand on sait que quelqu'un le peut, pourquoi se fatiguer à faire quelque chose qu'on n'arrive pas, plutôt que demander à celui qui peut. Bon, Job, maintenant, dit, je sais que tu peux, et oui, nous on dit, tu peux. Mais quand il y a le mot tout, c'est là où Dieu change les choses. Il peut tout. Et on ne peut pas dire, oui, mais ça, mes problèmes financiers, ou la voiture, ou l'injustice. Dieu peut tout. Oui, mais comment il va changer ? Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Mais Dieu peut changer. Il incline les cœurs même des rois. Il peut changer quelqu'un d'ennemi en ami, quelqu'un de menteur. Enfin, il peut tout. Donc arrêtons de nous acharner à vouloir changer des choses quand c'est Dieu qui lui le peut. Bon, voilà. Rien ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. Là aussi, qu'il puisse tout, c'est une chose, mais des fois on dit, oui, mais est-ce qu'il veut ? C'est là souvent où on est-ce que Dieu veut ? Bon. Ben, qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu a des desseins. Et Dieu peut tout, mais il peut tout ce qu'il veut. Pas ce que nous voulons. C'est là, des fois, dans notre vie de prière, « Ah, Seigneur, et on pleure pour des choses qu'il n'a pas du tout l'intention de nous donner parce qu'il sait que ce n'est pas pour notre bien. » Donc, il va accomplir ses desseins. Nous rappeler ça aussi, qu'il accomplit ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est le meilleur. Et s'il nous faut passer par telle épreuve où on ne comprend pas et où on n'a pas l'exaucement et où on doit supporter quelque chose plutôt que d'en être délivré, c'est parce qu'il a un dessein. Et ça aussi, ça nous aide au sein de l'épreuve de nous dire que Dieu va accomplir quelque chose. C'est pas maintenant. Là, je suis en train de m'en prendre, entre guillemets, plein la figure. Et je dois le supporter, et je dois patienter, et ça me semble injuste, et ça me semble même pas glorifier Dieu. Mais c'est maintenant. Le dessein de Dieu n'est pas toujours à l'instant où nous voudrions la réponse. Le dessein, c'est qu'est-ce qu'il va accomplir avec ça. C'est ça qui compte, à nous aider aussi à supporter certaines choses. Donc Dieu se révèle. Dans l'instruction, Dieu enfin se révèle tel qu'il est. Et c'est pour ça qu'au final, ben, Job reconnaît verset 3, mais j'ai parlé des choses, c'est des choses trop merveilleuses pour moi. Jusque-là, il en parlait. Et on a des beaux cantiques, et on a des belles déclarations de foi, on en parle. Mais c'est des choses trop merveilleuses pour nous, quand on réalise qui est Dieu. C'est trop merveilleux pour nous. C'est trop grand. Bien sûr qu'on en parle sans vraiment expérimenter. Parler de la souveraineté de Dieu, parler de la gloire de Dieu, parler des perfections invisibles de Dieu, parler de tout ça. Mais bien sûr qu'on ne parle que de choses qu'on ne connaît pas. On peut être un spécialiste en nature et on n'a rien compris de toutes les lois qui gouvernent l'univers. Être un spécialiste en anatomie, enfin, tout ce que vous voulez, mais on ne sait rien. Et même pour ce qui est des choses de Dieu et de la théologie, on a beau être certains des gens qui l'ont étudié, on ne sait rien. Au mieux, comme il dit, on obscurcit les plans de Dieu. Et j'hésite toujours quand on vient me demander un avis sur une situation familiale ou personnelle. Parce que qui suis-je pour dire à quelqu'un ce que Dieu veut pour lui ? je me tais la plupart du temps. J'aimerais bien avoir un conseil, mais combien les gens ont des conseils à donner et combien on ferait bien parfois de se taire et de dire, bon, je vais prier pour toi que Dieu te réponde. J'ai du mal à dire aux gens qui sont dans l'épreuve, fais ci, fais ça, ne fais plus ci, ne fais pas ça. Je n'en sais rien. Et j'ai peur d'obscurcir les plans de Dieu et de dire oui, mais c'est ça. Et puis, mais alors que ce n'était pas du tout ça. Voilà ce que nous faisons la plupart du temps. Et Dieu nous instruit, et au final, après l'épreuve, oui, verset 5, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. La deuxième chose qu'on réalise, la grandeur de Dieu, ses perfections. Au sein de l'épreuve, on se rend compte qu'il fait des choses extraordinaires, qu'il peut tout. Mais on réalise ô combien nous sommes superficiels dans notre connaissance de Dieu. Voilà, jusque-là, on en parlait. Jusque-là, on avait même entendu parler de toi, des bons messages, des bonnes... On avait entendu tout ça. Mais c'est au sein de cette épreuve terrible qu'on expérimente. Quand on dit « mon œil t'a vu », il n'a pas vu avec son œil physiquement à cet instant-là. Il a vu Dieu dans sa vie parce que Dieu est intervenu. Et ça n'est qu'au sein de ces épreuves-là où Dieu seul manifeste dans des circonstances peut-être simples, intimes, mais réelles, qu'il est là, qu'on me dit « maintenant je sais ». Dieu répond. Dieu intervient. Pourquoi il nous fallait passer par l'hôpital? Pourquoi il nous fallait passer par un champ de bataille? Et pour voir que Dieu, au sein du champ de bataille, peut faire passer les balles au-dessus, à côté, derrière, alors que tout le monde à côté de nous tombe. Ce que décrit le psaume 91. Et que maintenant, s'il me dit « vas-y », et quand j'aurais eu envie de dire « mais non, c'est fou », mais sur ta parole, comme le frère qui prêche avec ses incapacités, son handicap, ben il peut dire, Dieu le peut, parce que je le vis, parce que je le fais. J'ai du mal à me lancer à des exercices de guitare un peu compliqués. Il y a des exercices, 3 accords que je gratte, je n'ai pas peur de ça. Mais il y a des complications, et vous avez remarqué, le début était un peu raté. Bon, non, si vous remarquez pas. Si. Moi, je connais la chanson, au début, c'était raté, mais bon, peu importe. Mais comme on dit, il faut se jeter à l'eau parce qu'on fait confiance à Dieu. S'il le veut, allez-y. Voilà, c'est tout. Un temps d'instruction et au sein de l'épreuve, ayant expérimenté la fidélité, l'exaucement, la protection, ou pouvoir traverser l'épreuve sans défaillir, même si on souffre, même si on est perplexe, même si on ne comprend pas, même si on n'y arrive pas, mais traverser tout ça, avec le Seigneur, et on expérimente qu'on a traversé. Il y a un jeune ami qui a des problèmes d'hypersensibilité, et il a une nouvelle vie maintenant en tant qu'enseignant, c'est nouveau pour lui. Et il est très éprouvé par ça, parce que le rapport, on va dire, c'est pas une épreuve ça. Si, être un jeune prof face à une classe, en France, c'est une épreuve. Voilà. Et c'est pas facile, et il est très atteint par ça, parce que lui, tout allait très bien en tant que apprenant, en tant qu'étudiant. Il est excessivement intelligent, excessivement doué, excessivement travailleur. Mais après, il y a la réalité du rapport pédagogique. Ben, il en souffre. Ben, il demande des prières. Et il a des hauts et des bas. Et il est des fois complètement désemparé. Et il le partage. Et on prie. Et puis, il arrive à la fin de la semaine et il dit, merci Seigneur, j'ai terminé la semaine. Quoi ? Est-ce qu'on va dire, mais t'inquiète pas, tout va être... Je peux pas lui dire ça. Le prochain cours sera merveilleux, tu vas parler avec une autorité extraordinaire. Il faut aussi que l'expérience se fasse. Et il y a des choses par lesquelles il faut passer, qu'on a l'impression que c'est la catastrophe, qu'on n'y arrive pas. Et alors ? Est-ce que Dieu a arrêté d'être là parce que on est dans cet état ? Non, on apprend quelque chose. Et on continue. Et on se fortifie, et etc., etc. Donc un temps d'instruction, c'est Dieu qui se révèle au final. Et c'est, on sait bien que nous, on est toujours bien en deçà, en dessous. Mais c'est bien, parce que Dieu reste Dieu et nous restons qui nous sommes. Et on peut lui faire confiance, on peut être superficiel parfois, mais il n'empêche, Dieu accomplit ses plans. Ses plans, ses desseins ne reposent pas sur... Oui, il a besoin de nous, mais ne repose pas sur nous, sur nos perfections, sur la qualité de nos interprétations, sur notre compréhension de la situation. Voilà, la première chose, un temps d'instruction. N'est-ce que c'est pas déjà une bénédiction qu'on connaisse mieux Dieu? Ça peut nous aider à traverser l'épreuve. Deuxième chose, versets 7 à 11. Là, ça fait du bien quand même. Versets 7 à 11. « Après que l'Éternel eut ainsi parlé à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi, contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, comme Job, mon serviteur. » Donc peut-être que Job était superficiel, mais les autres ne parlaient pas avec droiture. C'est encore autre chose. « Maintenant, prenez sept taureaux, sept béliers, allez vers mon serviteur Job, offrez un holocauste pour vous, et Job, mon serviteur, priera pour vous. Et par égard pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, comme mon serviteur Job. Et Éliphaz de Théman, Bildad de Chouar, Sophar de Naama, allèrent et firent comme leur avait dit l'Éternel. Et l'Éternel eut égard à Job. Et l'Éternel rétablit Job dans ses biens, quand il eut prié pour ses amis, et il lui rendit au double tout ce qu'il avait eu. Et tous ses frères et toutes ses sœurs, tous ceux qu'il avait connus auparavant, vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui firent leurs condoléances et le consolèrent au sujet de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna une quesita et un anneau d'or. Là, du verset 7 au verset 11, on est dans une idée de rétablissement. C'est le mot qui est employé. Voilà. Et il le rétablit dans tous ses biens. Mais je pense que c'est pas que dans les biens que Job va être rétabli. C'est ça qu'on va voir. D'abord, le Seigneur va rétablir la vérité. Ses amis avaient des bons discours apparemment théologiquement valables. De dire, ben voilà, si t'arrives ces problèmes-là, c'est parce que c'est un peu ta faute, tu as dû faire quelque chose. Théologiquement, ça ressemble à beaucoup de choses dans les Écritures, où Dieu dit, si tu fais ça, il t'arrivera ça, et si tu fais pas ça, il t'arrivera ça. Le principe de la loi. Et donc, c'est facile d'arriver, brandissant la loi, si tu as ce problème-là, c'est ta faute. C'est dans les Écritures. Sauf que c'était pas le cas. C'était pas adapté là. Ben, Dieu va rétablir la justice. Et il va dire aux hommes, non, vous n'avez pas parlé avec droiture. Vous avez peut-être cité des versets, mais vous n'avez pas parlé avec droiture parce que vous ne saviez pas. Et vous avez affirmé quelque chose qui était faux. Donc Dieu lui-même va enfin rendre justice à Job. Dans le ciel, Dieu disait à Satan, « Mais tu regardes mon serviteur juste ?» Et les hommes sur la terre disaient, « Il fait n'importe quoi, il a certainement péché, regardez tout ce qui lui arrive, c'est sa faute. Il est coupable. » La justice, là, c'est Dieu qui va enfin rétablir la vérité. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, « Ne parlez pas... mal d'un serviteur, attendez la fin de l'histoire. » Combien il y a de circonstances où il est facile de juger quelqu'un, et Dieu dit, attends la fin de l'histoire, tu ne sais pas tout ce qui se passe. Mais Dieu, à un moment donné, va défendre ses serviteurs, Dieu, à un moment donné, va rétablir la justice, et ça c'est important de se rappeler ça, quand on traverse une période où on est éprouvé, et où autour de nous, les gens ne comprennent pas, et on aurait tendance à penser que quelque part, oui, mais il n'y a qu'à, ou si tu n'avais pas, ou si... Et rappelez-vous, Satan est l'accusateur des frères. Voilà. Et bien, dans ces épreuves-là, souvent, au lieu de trouver du réconfort avec notre entourage, on a des gens qui sont des donneurs de leçons, qui citent la Bible, qui ont raison avec les versets, mais qui n'ont pas raison avec la circonstance. Dieu va rétablir la justice. Il le fait avec Job. Ça fait du bien, et rappelons-nous aussi que quand même, à la fois pour ceux qui ont dit du mal, et à la fois pour Job, il y a l'idée d'apporter des holocaustes. C'est-à-dire que de toute façon, rappelons-nous que dans toutes circonstances, le rétablissement de la vérité ou de la justice, c'est pas de nous donner obligatoirement raison, ou de leur donner obligatoirement tort, c'est qu'il y a le sacrifice de Christ. De nous rappeler, les uns et les autres, qu'on est sous la grâce de Dieu, et on peut-être, eux n'ont pas bien compris, ont peut-être jugé rapidement, ou moi peut-être je me suis engagé. Peut-être je suis effectivement dans cette épreuve menée par Dieu, mais que j'y suis peut-être parce que je ne suis pas à ma place, ou je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Ça aussi c'est vrai. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, moi, tout ce que j'avais fait c'était parfait, et eux ont... Et c'est ça souvent dans les circonstances de tension dans les églises, ou dans les familles, ou dans les couples, c'est qu'il y a toujours une part, contrairement à cette histoire de Job, où Dieu tranche, il y a une part de responsabilité dans quelque chose qui nous arrive, et ça ne veut pas dire qu'on est totalement fautif, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, Dieu l'a permis, il nous a même laissé nous embarquer. Peut-être. Donc, on n'est pas là à réclamer la justice pour nous, on est là à simplement, la justice, c'est quelque part, il y a un sacrifice qui fait qu'aujourd'hui, on peut être réconcilié. Il y a les holocaustes, Christ a payé. Peut-être que tu n'as pas parfaitement compris la circonstance, peut-être que j'ai une part de responsabilité dans cette circonstance, mais il y a l'holocauste, et maintenant on prie les uns pour les autres, et la situation, le rétablissement, en l'occurrence, c'est surtout un rétablissement de relations. Regardez, sa famille est revenue vers lui. Où était sa famille quand il était dans l'épreuve? Ses enfants, bien sûr, étaient morts. Sa femme lui a dit de maudire Dieu. Mais il y avait les frères, les sœurs, les cousins, et ceux-là, ils avaient disparu, abandonnés de tous. Ça aussi, c'est douloureux. Mais là, Dieu va rétablir la relation. Savoir que des gens, peut-être, qui nous ont mal jugés, mal compris, qui se sont éloignés, le Seigneur peut faire qu'ils vont revenir. Et nous, il faudra être heureux de ce rétablissement d'une relation. Simplement. Simplement heureux. Il est aussi, au verset 10, on le voit, il est rétabli, c'est le mot, et l'Éternel rétablit Job dans son premier état, et en l'occurrence, là, la traduction que j'ai dit, c'est dans tous ses biens. On va dire, mais quelle importance les biens? Quelle importance? Il va retrouver sa famille, il va être rétabli dans la justice. Quelle importance les biens? C'est pas rien. Allez dire ça, si vous avez eu des biens, un travail, la santé, vous perdez tout, vous vous retrouvez à la rue. Oh non, moi je suis spirituel, je peux vivre dans la rue. Non, Dieu va le rétablir dans ses biens. Et ça n'est pas rien parfois, parce que certaines épreuves sont liées aux choses matérielles. Vous pouvez dire, mais non, mais les choses matérielles, ça n'a aucune importance. Vous avez une voiture, la voiture est crachée. Vous n'avez plus de voiture pour aller au travail. Vous avez un appartement, l'appartement part en fumée. C'est arrivé, je connais des chrétiens dont leur maison familiale sont partis en fumée littéralement. C'est arrivé. On va dire, mais ça n'a aucune importance, tout ça c'est matériel. Ben oui, mais va loger ta famille avec ça. Rétabli dans ses biens. Ben écoutez, non seulement Dieu va lui donner ce qu'il avait, son premier état, il va lui donner ses richesses. Voilà, il était l'homme le plus riche de toute la région, il va lui redonner tout ça. Et, après, tout à l'heure on va faire des mathématiques, mais il lui a accordé le double. Il dit, il donne même pour dire, c'est même mieux que ce que tu avais avant. Non seulement tu recouvres ce que tu avais, mais tu auras même le double. On n'en dit pas plus pour l'instant, on le garde pour après. Il va le rétablir dans ses biens, et c'est pas mal. On n'est pas obligé de souffrir de toutes les difficultés matérielles, financières du monde. On n'est pas obligé. Dieu ne promet pas qu'on va être riche, mais il promet de nous donner selon nos besoins. Et si on a besoin, il promet de nous donner. Et des fois, il donne plus encore pour nous montrer qui il est. Bon, et puis finalement, j'aime bien cette idée. Au verset 11, quand toute sa famille vient, ils lui firent leurs condoléances. Ils ne lui avaient même pas fait les condoléances pour ses enfants. Là, ils vont le faire. Est-ce que vous pensez que Job a souffert que sa propre famille ne vienne pas lui souhaiter des condoléances pour ses enfants? Mettez-vous à sa place? Bien sûr que si. Votre famille ne vient pas aux obsèques de vos enfants, enfin, vos intimes, vous avez grandi avec frères et sœurs, et le jour où vous perdez vos enfants, pas de nouvelles. Mais là, ils vont venir, ça va être réglé, ils vont lui faire leurs condoléances, et ils vont le consoler pour tout le mal qu'il a vécu. Là, il n'y aura plus de leçon. Non, ils vont simplement le consoler. C'est intéressant, ça, se rapporter, enfin, comprendre cette idée. Quand on traverse de telles épreuves, il y a notre corps qui guérit, gloire à Dieu. Mais il y a notre âme qui est passée au crible. Et vous savez quoi? On n'en sont pas indemnes du jour au lendemain. On va dire, ah, mais maintenant Dieu m'a montré qu'il est avec moi, il me redonne mes richesses, et les gens viennent me consoler. Mais il faut un temps de reconstruction. Un temps de rétablissement intérieur. Là, on parle d'épreuves comme celle de Job, pas de mon histoire de parking. Ça a mis un mois pour réparer notre voiture, un problème d'embrayage. Bon, on a changé les émetteurs, on a changé le récepteur, on a changé le compensateur. Bon. Et à chaque fois qu'on changeait quelque chose, ça ne suffisait pas. Je n'ai eu la voiture qu'au bout d'un mois, réellement en état de rouler. Je suis ravi, aujourd'hui je peux rouler. Mais il ne me faudra pas 3 mois pour me remettre de cette épreuve, intérieurement. Mais, quand même, je vais vous dire que de prendre sa voiture, que l'embrayage, quand vous êtes en train de rouler, reste coincé en bas, quand vous roulez sur les autoroutes, quand même, intérieurement, ça vous laisse une drôle de sensation, quand même. Imaginez. L'embrayage est coincé. Comment on fait? Ça nous est arrivé une première fois dans un parking souterrain. On a bloqué le parking. Les gens, enfin, c'était traumatisant quelque part. Un petit traumatisme. Mais c'était quand même un traumatisme. Je vous assure que j'ai du mal maintenant à reprendre la voiture quand j'appuie sur l'embrayage. Voilà. Il me faut un petit moment pour retrouver une certaine assurance maintenant quand je conduis ma voiture. Mais quand on passe par les épreuves comme celle de Job, il faut du temps pour se remettre de tout ça. Voilà pourquoi, je vous dis, de l'épreuve, il se passe quelque chose de terrible, mais à la fois, le Seigneur va reconstruire, va rétablir, même l'homme intérieur. Et je vais terminer maintenant avec, on a vu tant d'instructions, tant de rétablissement, mais un temps de bénédiction. Voilà, on aurait aimé arriver à ça directement, mais non, il fallait parler du reste aussi avant. Mais le temps de la bénédiction, c'est du verset 12 au verset 17, l'Éternel bénit. Voilà, verset 12. Il reçut plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Pourtant, il était béni avant, hein, l'épreuve. Mais là, il en reçut plus. Il est béni. Accepter de passer par une épreuve parce qu'après on se dit il va y avoir un temps de bénédiction qui en ressort. Ça nous aide, non, au sein de l'épreuve, de savoir qu'au bout, c'est pas juste il y aura une sortie du tunnel ou quand tu touches le fond de la piscine, tu remontes. Ça, c'est des phrases toutes faites. Mais quand Dieu dit je te donnerai le double de ce que tu avais et que tu vas rentrer dans un temps de bénédiction, l'épreuve, même longue, on peut persévérer parce qu'on sait que Dieu agit ainsi. Donc, il bénit le dernier état de Job plus que le premier. Et c'est là où on va faire des mathématiques. Qui c'est qui est fort en mathématiques ici? Bon, diviser par 2, c'est pas trop compliqué. Je pense que la plupart d'entre nous, on devrait y arriver. Mais là, j'aime bien parce que quand Dieu a dit double, nous on pourrait dire, c'est une histoire de dire que c'est l'abondance, quoi. C'est une formule un peu poétique, enfin, non, c'est littéral. C'est littéralement le double des possessions. Si vous allez dans Job chapitre 1, on va pas le lire, vous amuserez à le faire, mais vous prenez là les chiffres qu'il y a, 14 000 brebis. Dans Job chapitre 1, verset 2 et 3, vous lisez, c'est bien la moitié. 7 000. Littéralement. Quand il y a 6000 chameaux, oula, c'est dur là. Il y en avait 3000, oui, effectivement. Et quand il y a 1000 couples de bœufs, si je compliquais là, ça fait combien de bœufs? Combien de bœufs? Hein? Voilà, c'était le piège. Tout le monde va dire 500, mais non, c'est des couples de bœufs. Donc voilà, bon, c'était juste pour nous obliger à être... voilà. Donc ça fait 500 couples, ou ça fait 1000 bœufs. Oui. Ah oui, si on reste en paire, voilà. Allez, bon. Il fallait pas que je lance les maths. 1000 couples de bœufs et 1000 ânes, il y en a 500. Donc vous vérifierez si vous voulez vous amuser à ça. C'est littéralement le double. Donc c'est intéressant de nous rappeler ça. Quand Dieu fait une promesse, elle est pas poétique. Elle est réelle. Quand Dieu vous dit quelque chose de précis par rapport à une situation, attachez-vous à prendre Dieu au mot. S'il dit double, c'est pas moi qui vais lui demander de donner-moi le double. Mais s'il y a quelqu'un qui a demandé le double, qui un jour a demandé le double? Si, si, littéralement, quelqu'un a demandé le double de quelque chose. Élisée a demandé une double ration du Saint-Esprit par rapport à Élie. Il y a transmission, mais Élie. Et là, Dieu lui dit, enfin, Élie lui dit, oh là, ce que tu demandes là est difficile. C'est difficile. Mais si tu me vois m'enlever, et c'est exactement ce qui s'est passé, il l'a vu monter sur des chariots de feu et monter. Et il a eu, si vous prenez la vie de Élisée, littéralement, les miracles que faisait Élie, il en faisait le double. Littéralement. Donc, ça vaut la peine de prendre Dieu au mot, non? Le double. Si Dieu vous le promet, faites-le. Osez parfois demander le double. Bon. Si vous demandez une augmentation à votre patron et que vous arrivez à dire, écoutez, moi je crois le double. On ne peut pas promettre ça, parce que Dieu, quoi? Dieu fait ce qu'il a promis, rappelez-vous ses desseins. Il a dit, je pourvoirai à tous vos besoins selon sa richesse. Mais en revanche, il a promis que ce qu'il va faire quand on lui demande quelque chose, il fera au-delà de tout ce qu'on peut penser ou espérer. Si on n'est pas fort en maths, moi je suis pas très fort en maths, je préfère le toujours plus que ce que tu espères. C'est encore plus facile à calculer. C'est toujours mieux. Voilà, quand j'étais enfant, c'était toujours un de plus que toi. Vous vous rappelez de ça? Quelqu'un le faisait? Quand on se disputait sur quelque chose et qu'on voulait avoir le dernier mot, eh bien, on disait toujours un de plus que toi. Avec quoi qu'on dise, j'aurais toujours raison parce que je te rejoins. Bon, là, Dieu promet toujours au-delà de ce qu'on espère. Quand on nous dit ça, quand même, ça vaut le coup, non? De faire confiance à Dieu et d'espérer une bénédiction. C'est toujours double ou mieux que ce qu'on espère de toute manière. Mieux. C'est bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Ses enfants, parce qu'il a perdu, sept garçons et trois filles. Et il va avoir... Non. Les enfants ne sont pas des biens. Non, mais doubler sept. Non, c'était... Il avait sept garçons et trois filles, et il a sept garçons et trois filles. Il a retrouvé. Mais, parce que là, on parlait de quantité jusque-là, le double en quantité. Là, il n'y a pas le double d'enfants. Il y a exactement le même nombre. Donc, il a retrouvé l'état initial. Mais, et j'aime beaucoup ça, et ça sera un peu la conclusion quand même, il donna trois filles. Il y a des noms. Et c'est intéressant, parce qu'on n'a pas les noms des garçons, on a les noms de trois filles. Jemina, Ketsia et Keren Apouk. Tout le monde connaît la traduction de ces trois prénoms, évidemment. C'est là où cette version-là m'aide, parce que là, il y a la traduction. Ces trois filles, Jemina, ça veut dire colombe. Ketsia, ça veut dire parfum. Et Keren Apouk, c'est le verset 14. Et Keren Apouk, c'est pas très joli comme nom par rapport à notre langue. Keren Apouk. J'oserais pas appeler ma fille comme ça. Mais, ça veut dire flacon de phare. Flacon de phare. Un onguent, une crème. Donc vous avez colombe, vous avez parfum et flacon de phare. C'est pas beau ça? Et en fait, verset 15, il ne se trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Job dans tout le pays. Voilà. Alors, Il en a le même nombre, mais ces filles-là sont de grande valeur, au point même qu'elles vont avoir un héritage avec leurs frères. Ça, ce n'était pas fréquent dans la loi de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, d'une beauté, alors là, on va dire belle esthétiquement, mais même leurs prénoms veulent dire quelque chose. Au sortir de l'épreuve, ce que Dieu peut faire sortir de nous est bien meilleur que ce qu'on pouvait faire jusque-là sortir. Et des fois, vous savez, moi j'ai des problèmes de dos. Je préfère quand je suis en forme pour servir le Seigneur. J'ai plus d'assurance, je ne suis pas tout tremblant en portant ma guitare ou je ne sais quoi. Mais j'ai vu le moment où il fallait servir le Seigneur. Je me suis levé à une réunion où j'avais été invité à Perpignan. C'était au moment où je me lève. Là, le dos lâche au moment où je me lève. Et là, je me rassieds tout de suite. Le frère me voit, j'ai une larme qui me coule. Parce que quand même, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toute la journée, je dois prêcher, je dois chanter, je dois faire plein de choses. J'ai une larme, je prends un cachet et je dois aller prêcher. Ben, j'y vais comme je peux, je m'assieds et je commence à chanter assis. Et après, quand l'effet du cachet le permet, j'arrive à me lever et à me tenir tout le message comme ça pour prêcher. Le Seigneur a permis ça. Et là, le frère qui m'avait invité, oui, je fais des chansons, ça s'appelle « Ma grâce te suffit ». J'en ai deux de chansons qui sont sur ce thème-là, « Ma grâce te suffit ». Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Oui, on aime bien « Ma grâce te suffit », mais « Ma force s'accomplit dans la faiblesse ». Et Paul termine, et souvent on a du mal avec la fin, il dit « C'est pourquoi je me plais dans les infirmités ». Je me plais, en gros, il fait la liste. Moi, je ne me plais pas. Je préfère être en forme. Peut-être que je suis un peu lâche et que je préfère me lever sans avoir mal et jouer de la guitare sans avoir besoin de m'asseoir. Je n'arrive pas encore à dire comme Paul, je me plais dans les infirmités. Je ne demande pas au Seigneur, envoie-moi un bon truc là comme ça, un truc au cerveau, un truc au cœur ou un truc au dos ou au genou. Comme ça, les gens ils voient que je suis vraiment dans la souffrance, et ils vont comprendre, ils vont toucher, parce que là, c'est ta puissance. On ne peut pas demander ça au Seigneur. Mais on sait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, le Seigneur peut se glorifier et nous donner ce qu'il faut, la force, la puissance. Peut-être que la voix va lâcher. Tout à l'heure, je chantais en me disant, j'ai bu trois fois avant de chanter, en me disant, est-ce que ma voix... Je ne sais jamais. Parce que normalement, quand on chante, on se chauffe avant, on fait des effets, tout ça. Mais quand vous avez chanté avant, des fois la voix lâche et vous devez chanter quand même. Bon, mais je ne savais pas, je prends la guitare et j'ai dit, bon Seigneur, c'est toi qui fais ce que tu veux. Mais on sait que Dieu peut tout, même avec des voix éraillées, même avec des moments où on a mal à la gorge, même si, tout ce que vous voulez. Voilà, tant de bénédictions, qu'en est-il de l'épouse? On n'en sait rien. Mais si on en sait quelque chose, il n'y a rien d'écrit, mais il y a quelque chose d'écrit. Il y a 7 fils et 3 filles magnifiques. Dieu a béni l'épouse, malgré ce qu'elle a dit. On n'en sait rien de plus, donc j'en dirai pas plus. Et ce qui est beau aussi, c'est de se rappeler qu'après ça, verset 16, après ces choses, 140 ans, il a vécu 140 ans. Des fois, on a l'impression de dire « Oui, mais l'épreuve, elle est trop longue. Après, quoi ? Ce sera juste... » La bénédiction dure toujours plus que l'épreuve, même si l'épreuve dure. Et il mourut, âgé, et rassasié de jours. Et il a vu ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Vous voyez la bénédiction de l'avoir non seulement après, mais même après-après, et même après-après-après, des fois dans l'œuvre. On dit, Seigneur, je ne sais pas la bénédiction que tu vas en sortir, mais la bénédiction, c'est dans le temps. Voilà. Au sortir de l'épreuve, on en tire un temps d'instruction. On voit Dieu, on le connaît. On reste ce qu'on est, des méphibochettes qui boitent, mais à la table du roi. Après, il y a un temps de rétablissement, de rétablir la justice, rétablir les corps, rétablir l'âme, rétablir notre être. dans son intégralité, et un temps de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. La bénédiction dure et elle est belle. Parfum, parfum de Christ. Après, c'était la colombe, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur, quelque part de tout ça, tire le, que le Saint-Esprit se manifeste plus dans notre vie. Et puis, Keren Apouk, c'est phare, ça va nous rendre beau. Voilà, c'est ce qui est pas mal. Que le Seigneur vous bénisse.